Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, indemnité de non-concurrence, bonus maximum, rémunération variable, lexique des salaires des grands patrons passe mal en pleine crise. Cas d'école aujourd'hui lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de Carrefour, reportage Sarah Lemoine. La Chine riposte sans tarder aux droits de douane massifs appliqués au 6 juillet prochain par les États-Unis. Précision de Pékin de Dominique André. Puis au Nicaragua, quel avenir prêté à la tentative de restauration du dialogue entre le pouvoir et l'opposition initiée aujourd'hui par l'Église. Invité de cette édition, Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS. Carlos Ghosn sauve sa feuille de paye à une courte majorité. Les actionnaires de Renault ont approuvé la rémunération de 7,4 millions d'euros du PDG au titre de l'année 2017. L'Assemblée Générale lui octroie également un nouveau mandat de 4 ans. Carlos Ghosn s'était engagé à réduire de 30% sa rémunération pour 2018 afin de s'assurer le soutien de l'État français à son renouvellement. C'est plus compliqué à Carrefour pour Georges Plassat qui a négocié ses droits à la retraite, une indemnité de 13,17 millions d'euros. Le salaire de son successeur Alexandre Bompard a lui aussi électrisé les tribunes. Le haut comité de gouvernement d'entreprise, les investisseurs et la CFDT ont donné de la voix lors d'une assemblée générale que vous avez suivie, Sarah Lemoine.
Des sifflets, des huées, des insultes qui fusillent ici et là, la direction de Carrefour n'a pas été ménagée. En ligne de mire, le package de 13 170 000 euros attribué à Georges Plassat, l'ancien PDG parti l'an dernier, intolérable pour les dizaines de militants de la CFDT qui assistaient à l'AG en tant que salarié actionnaire, Sylvain Massé, délégué Carrefour.
L'entreprise vit des moments très difficiles. C'est un plan social qui est d'une ampleur sans précédent. 7 000 suppressions de postes dans le monde, dont 5 000 en France. Donc là, il y a une vraie déconnexion entre les résultats que le PDG sortant a obtenu et sa rémunération. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, c'est un élément de démotivation et d'incompréhension aussi auprès des salariés.
À l'extérieur, c'est la CGT qui appelait à manifester pour dénoncer aussi les 356 millions d'euros de dividendes distribués aux actionnaires ou à Fafor, délégué syndical Carrefour.
L'argent qui est distribué aujourd'hui pour les actionnaires, et c'est de plus en plus notre force de travail, et en même temps ils nous ferment nos magasins en nous prenant tout notre travail. C'est pas normal qu'eux, ils partagent le gros pactole et nous, ils nous envoient des miettes.
Le package de 13 millions d'euros pour l'ancien PDG du groupe a bien été approuvé, mais Carrefour doit désormais s'expliquer auprès de l'organisme patronal chargé de veiller sur les bonnes pratiques en termes de rémunération. Il dénonce des dérives sérieuses.
Trois syndicats de la fonction publique claquent la porte d'une réunion de travail avec les représentants du gouvernement sur la simplification du dialogue social. La pierre d'achoppement, la fusion des CE et des CHSCT, préalable à toute entrée en discussion selon l'État, un casus belli pour FO, Solidaires et la CGT. La CGT qui entend poursuivre la grève contre la réforme de la SNCF au-delà du 28 juin. La CGT et Sudrail ont quitté en colère une réunion portant sur une nouvelle convention collective du secteur ferroviaire. Entente parfaite en revanche entre Paris et Rome s'agissant d'une refonte de la politique européenne d'accueil de celles et ceux qui fuient conflits et misère économique. Au terme d'une semaine de tension et de vifs échanges eu égard à l'errance du navire humanitaire l'Aquarius, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et le président de la République Emmanuel Macron se sont dit favorables, entre autres, à la construction de centres européens dans les pays de départ des réfugiés. L'Aquarius est attendu dans le port de Valence dans la nuit de samedi à dimanche. L'on apprend ce soir que 700 autres réfugiés ont été secourus dans le sud de l'Espagne, principalement dans le détroit de Gibraltar. Chine, États-Unis, la loi du talion. Pékin dit ne pas vouloir la guerre, mais annonce des droits de douane équivalents à ceux appliqués à compter du 6 juillet par Washington. Droits de douane d'un montant de 50 milliards de dollars. Dominique André est à Pékin.
La Chine réagit ce soir par un communiqué bref et cinglant. Nous allons immédiatement prendre des mesures en matière de droits de douane d'une ampleur équivalente. Pékin appelle aussi les autres pays à une action collective contre cette conduite des États-Unis qui est jugée par la Chine rétrograde et dépassée. Début avril, le ministère chinois du commerce avait dévoilé une liste de ripostes si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces. La Chine pourrait imposer une taxe de 25% sur le soja, ce qui viserait alors les États républicains qui sont le réservoir d'électeurs de Donald Trump. C'est un enjeu de taille aussi. Les États-Unis exportent un tiers de leur production de soja vers la Chine. Les voitures, les petits avions et le bœuf pourraient faire partie également des 106 familles de produits visés. La Chine, qui n'a cessé de répéter que personne ne sort vainqueur d'une guerre commerciale, s'apprête donc à passer aux actes. Mais Donald Trump considère que c'est en faisant pression sur le régime chinois que les offres s'améliorent pour faire baisser le déficit commercial abyssal dont souffrent les États-Unis en Chine.
L'information nous est parvenue il y a quelques minutes. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, vient d'arriver en Belgique. Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison pour des crimes commis en République centrafricaine en 2002 et 2003, désormais en liberté provisoire. Il pèse considérablement sur les rapports de force d'un processus électoral déjà explosif en République démocratique du Congo, où Jean-Pierre Bemba compte des millions de soutiens. Nous ne nous laisserons pas intimider par les lâches qui t'ont ravi à nous. Cette phrase arme l'éditorial du quotidien Le Rising Kashmir, le journal dont le rédacteur en chef a été abattu hier à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien. Des milliers de personnes ont assisté aujourd'hui aux funérailles de Chourat Boukhari, ardent défenseur d'une résolution pacifique de l'interminable conflit territorial qui oppose Inde et Pakistan. C'est une correspondance d'Inde de Sébastien Farsi de RFI.
Franc et courageux, c'est ainsi que beaucoup le décrivent. Shujat Boukhari était le fondateur d'un groupe de 4 médias du Cachemire et dirigeait la rédaction anglophone du Rising Kashmir. Il était connu pour son combat en faveur de la paix, dans lequel il osait critiquer tous les extrémistes, ce qui lui a peut-être coûté la vie. Il avait déjà échappé à une tentative de meurtre en 2002 et recevait depuis une protection policière, mais ses deux gardes ont été abattus avec lui par les motards qui ont surgi devant son bureau. Comme en 2002, ce crime n'a pas été revendiqué, mais cela n'empêchera pas la rédaction de continuer sa lutte, comme l'affirme Rachid Makboul, l'un de ses collègues.
Quand nous faisions face à une situation délicate, je lui disais que nous devrions faire attention. Il souriait alors et me répondait que la mort était inévitable, que rien ne peut l'arrêter. Il était vraiment courageux. Au Cachemire, le danger est permanent. Nous affrontons cette violence depuis 30 ans et ce n'est pas ce crime qui va effrayer les journalistes. Il n'en est pas question.
11 journalistes ont été tués en Inde l'année dernière. Le pays figure à la 138e place dans le classement de la liberté de la presse.
Au Nicaragua, l'Église ambitionne de réunir aujourd'hui les conditions d'un dialogue entre l'opposition et le clan Ortega. Hier, le pays était paralysé par une grève générale. 4 manifestants étaient tués par les forces anti-émeutes. Les milices paramilitaires pro-gouvernementales s'attaquent, elles, aux barrages qui jalonnent les axes routiers dans tout le pays. Cette journée d'action a été initiée par le Conseil supérieur des entreprises privées, ce qui nous amène à poser la question du positionnement des milieux d'affaires. Nous sommes à cet égard en ligne avec Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Comment se comportent les milieux d'affaires à ce stade de la crise, à ce stade du soulèvement ?
Le patronat, en fait, nicaraguayen, ils ont l'équivalent du MEDEF en France, désormais lâche tout simplement le gouvernement qu'il avait jusqu'ici pas lâché. Et donc c'est lui qui a appelé à la grève générale de 24 heures qui vient s'ajouter disons à tous les convulsions et les spasmes que connaît le Nicaragua depuis plusieurs semaines. Que veut le patronat désormais nicaraguayen ? Ben, il veut le départ sans condition du président Ortega, de son point de vue, solutionner la crise politique du moment.
Pour proposer d'en venir au Fonds monétaire international, aussi parce que le patronat ne veut pas renflouer les caisses de la sécurité sociale.
Ben exactement, c'est-à-dire qu'au départ de la crise, il faut se rappeler qu'il y avait une proposition de réforme du système de protection sociale qui avait été décidée par Ortega, qui était en fait à mi-chemin entre des recommandations, on va dire, dures du FMI, et puis les demandes des syndicats qui étaient évidemment complètement à l'opposé. Il avait tenté de trouver une ligne médiane qui n'a pas du tout contenté de grands secteurs de la population, à commencer par les retraités qui se voyaient imposer une ponction sur leurs modestes revenus, et les étudiants également. Et c'est comme ça que tout a démarré. Dans cette opération, le patronat était mécontent parce que lui souhaitait en fait que le gouvernement prenne une position plus en ligne avec les recommandations du FMI. Et donc la proposition initiale du gouvernement ne lui a pas plu au patronat nicaraguayen. Et lorsque Ortega, en plus, a retiré le projet après les premières convulsions, les premières manifestations, les blessés, les morts, etc., et pas à partir de ce moment-là, le patronat est encore moins en phase avec le gouvernement. Et comme le gouvernement, ensuite, n'est pas revenu sur tout ça, ça explique que désormais, il a rompu de manière active avec lui au point d'être à l'origine d'une grève générale qui paralyse le pays.
Que représentait, car il n'est plus de mise, le soutien financier du Venezuela, du voisin vénézuélien ?
Il était très important, et c'est un autre élément de la crise, c'est que le Venezuela a pu, coopérer avec le Nicaragua jusqu'à hauteur de 500 millions de dollars par an pour ce pays. C'était très important, ce qui a permis au Nicaragua aussi d'être moins dépendant de l'aide et de la coopération américaine pendant de nombreuses années. Mais désormais, la crise elle-même politique, sociale, économique du Venezuela l'empêche désormais de maintenir ce niveau de financement et de coopération avec le Nicaragua. Et c'est pour ça qu'Ortega se retrouve aussi dans difficultés supplémentaires, parce que de cette manière-là qu'il est aussi obligé de retourner vers les bailleurs de fonds et les institutions internationales, mais qui lui imposent des conditions qui sont là aussi une partie de l'origine de la crise actuelle. Le fait que Venezuela soit en crise, pour le Nicaragua, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, parce qu'on parle quand même d'un pays qui est un petit pays centra-américain, qui n'a pas beaucoup un appareil productif qui est très faible, qui a une économie qui est essentiellement basée sur l'exportation de produits agricoles, en particulier aux États-Unis. Et c'est toute l'ambiguïté de ce gouvernement qui à la fois proclame des objectifs révolutionnaires de redistribution, mais qui en même temps a été obligé ou conduit en tout cas à développer des accords de libre-échange avec les États-Unis et de demander et d'obtenir à certaines conditions de l'aide financière qui provient de la coopération américaine ou des institutions financières internationales.
Christophe Ventura, d'un dernier mot, vous parlez beaucoup des États-Unis. Justement, est-ce que la promesse faite par le Daniel Ortega d'organiser des élections anticipées, promesse faite aux États-Unis, peut changer quelque chose maintenant ?
Alors, effectivement, il semblerait que Daniel Ortega ait proposé des élections anticipées, mais de rester au pouvoir le temps qu'elle soit organisée, tandis que son opposition exige son départ immédiat sans condition, ce qu'il refuse de faire, et avec lui les secteurs qui continuent de le soutenir, parce qu'en fait malheureusement ce qui se passe au Nicaragua, cette tragédie en fait se complexifie et s'engouffre là-dedans tout un tas de secteurs d'opposition et de pratiques d'opposition qui sont aussi génératrices de violences, etc. Tout ça se mêle en même temps, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres pays latino-américains. Donc il a effectivement proposé cette voie-là. Il a également proposé, il a retiré les projets de la discorde initialement. Il a également proposé d'accepter la feuille de route proposée par l'Organisation des États américains et donc Washington pour une démocratisation et une réforme du système électoral, ce que reprend à son compte aujourd'hui la conférence épiscopale qui essaye de mener un dialogue, parce qu'à l'heure où on se parle ce soir, il y a une réunion de dialogue entre le gouvernement et l'opposition, facilitée par la conférence épiscopale. Donc il a proposé ça, et maintenant il semblerait bien qu'il soit prêt à aller vers des élections anticipées. Les États-Unis doivent encore évaluer la proposition, j'imagine. Jusqu'à présent, en tout cas, les États-Unis ont plutôt pas voulu se débarrasser d'Ortega brutalement, jusqu'à présent en tout cas. Donc ils doivent prêter une oreille attentive certainement à la proposition que fait le président Ortega, mais tout ça ne va pas certainement clarifier les choses dans les jours qui viennent dans ce pays.
Merci à vous Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, d'avoir accepté notre invitation. La rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr, qui scande aujourd'hui la fin du mois de Ramadan, est un accomplissement. Et à Gaza, il ouvre un nouvel espace de lutte dans le droit fil de semaines de mobilisation dans le cadre de la marche du retour. Lutte aérienne, des manifestants ont lancé des milliers de cerfs-volants enflammés de l'autre côté de la frontière. C'est un reportage de Marie Semelin.
Sur la route vers le kibboutz de Mefalsim, une odeur de brûlé prend à la gorge. Le village est à 900 mètres de la bande de Gaza et on en distingue les immeubles. Les terres du kibboutz se sont partiellement brûlées et nos gagoultes vivent dans la peur des incendies.
Vous voyez la fumée blanche là-bas? Ça, c'est un feu qui vient juste de démarrer. Dans 10 minutes, je vais recevoir un message me disant exactement ce qui s'est passé. Vous savez, quand un missile tombe, ça fait peur, mais l'alarme sonne et je vais dans un abri. Mais contre le feu, il n'y a rien à faire. Quand je conduis, au lieu de regarder la route, je passe mon temps à scruter le ciel pour voir s'il n'y a pas un cerf-volant ou un ballon qui arrive.
Un peu plus loin, au kibboutz de Nahal Oz, Dani Rahamim s'occupe de l'irrigation pour le village qui vit uniquement de l'agriculture et la récolte de blé est perdue.
Quand vous êtes fermier, vous travaillez très dur. Et quand vous arrivez et que vous voyez que tout est brûlé, c'est très difficile de décrire ce que je ressens. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point ça fait mal. Nous exhortons notre gouvernement d'ouvrir des négociations pour un accord avec le Hamas. Et je sais que la plupart des gens à Gaza veulent la même chose que nous, vivre en paix.
Les dégâts autour de Gaza sont évalués à plus de 2 millions d'euros par le gouvernement israélien qui a déclaré ses cerfs-volants incendiaires activités terroristes, ouvrant ainsi la voie à une indemnisation pour les agriculteurs.
À Mossoul, les imams ont appelé les commerçants ce vendredi de rupture du jeûne à ne pas vendre ces armes en plastique qu'affectionnent tout particulièrement les enfants pour, je cite, « diffuser la joie et l'optimisme ». Quelques mots de la météo de demain pour la France. Un temps nuageux, gris et humide sur Paris. De petites pluies sont attendues en cours de journée sur l'ensemble des régions. Température minimale comprise au lever du jour entre 9 et 15 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto, à la technique Kevin Boisseau.